VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 10 minutes, Carrefour avec Eric Manirakiza, mais tout d'abord le journal. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 25 ans, choisi par le mouvement patriotique du salut, MPS au pouvoir, a un congrès aujourd'hui à N'Djamena pour être son candidat à la présidentielle du 10 avril. Arrivé à la magistrature suprême par un coup d'État en 1990, en renversant son prédécesseur Hissène Habré, Idriss Déby Itno a été élu président de la République à 4 reprises, chaque fois avec une majorité écrasante. Second tour des élections RCA, le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC donne des assurances quant au bon déroulement du scrutin du 14 février dans sa zone. Le MPC, qui contrôle la région de Kagamandoro, se dit persuadé que la solution à la crise centrafricaine sortira de ces élections. Les explications du porte-parole du MPC, Ahmad Ali, joint à Kagamandoro par Félix Yepassi Zembrou.
Nous sommes favorables aux organisations de cette élection-là, pour qu'on puisse vraiment tourner la page définitivement. Et nous croyons que, nous, au niveau du MPC, que le processus électoral en cours, ça fait partie des solutions de la crise centrafricaine.
Cela veut dire que vous allez assurer la sécurité durant la campagne et puis durant les élections de dimanche 14 février 2016?
Nous les avons toujours fait, dans un premier temps avec le référendum. Nous continuons de le faire avec les partenaires internationaux qui sont représentés par la MINUSCA ici en présence dans notre zone. Nous sommes en train de collaborer avec eux dans ce sens pour qu'on puisse organiser convenablement les élections dans les normes et dans la tranquillité.
Ahmad Ali, porte-parole du MPC à Kagamandoro en RCA. Au Congo-Brazzaville, un ex-chef d'état-major candidat indépendant à la présidentielle de mars, il s'agit du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis en Afrique du Sud, l'opposition a saisi la Cour constitutionnelle et manifesté aujourd'hui à Johannesburg pour exiger que le président Jacob Zuma rembourse une partie des plus de 20 millions de dollars de fonds publics utilisés pour rénover sa résidence privée de Nkandla. Les précisions d'Idriss Fall.
Environ 5 000 membres de l'Alliance démocratique et des combattants de la liberté économique, le parti du bouillant Julius Malema, ont battu le pavé devant la Cour constitutionnelle à Joburg. Ils ont scandé le même slogan « Rends l'argent » qui retentit au Parlement à chaque apparition du chef de l'État. Et Jacob Zuma doit prononcer jeudi son discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. L'année dernière, la session a été perturbée par les partisans de Malema qui ont été brutalement expulsés. Ce scandale a débuté en 2014. La médiatrice de la République, dans son rapport, avait dit que le président Zuma avait indûment bénéficié des deniers publics pour rénover sa résidence privée. Elle avait recommandé qu'il rembourse une partie de l'argent détourné. Depuis, M. Zuma, qui a toujours rejeté l'idée de leur rembourser un seul centime, a fait volte-face il y a une semaine, admettant qu'il pourrait rendre une partie de la somme. Les élections municipales prévues en août prochain seront certainement un test pour l'ANC qui règne sans partage depuis la fin de l'apartheid il y a 22 ans.
Afrique de l'Ouest maintenant, Sierra Leone, la dernière patiente connue d'Ebola officiellement guérie. Le compte à rebours de 42 jours est engagé pour proclamer à nouveau la fin de l'épidémie dans le pays. Mais une trentaine de personnes susceptibles d'avoir été contaminées n'ont toujours pas été localisées. En Guinée, plusieurs associations de presse réclament justice après la mort de leur confrère tué vendredi dernier par balle au siège de l'UFDG, un parti d'opposition. C'est après une marche que les journalistes ont demandé hier au gouvernement guinéen de faire toute la lumière sur cette affaire. Écoutons leur porte-parole, Mam Diallo.
Nous sommes offusqués, scandalisés, heurtés par l'audace des assaillants qui ont commis ce crime odieux en plein jour au sein d'un parti politique qui aspire au règne de ce pays. La presse unie comme un seul homme exige que lumière soit faite afin que les auteurs soient poursuivis, arrêtés et punis de leur forfaiture. Et plus loin, nous demandons que ceux qui sont à la base de cette tuerie, ceux qui ont parrainé ou soutenu ce carnage, jugé pour leur irresponsabilité.
Mam Diallo à Conakry en Guinée. Au Burkina Faso, les juges s'occupant du putsch manqué de septembre 2015 disent n'avoir subi aucune pression pour lever le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Des rumeurs faisaient état de pression du pouvoir pour lever ce mandat d'arrêt.
VOA Afrique en direct de Washington.
Élection primaire présidentielle aux États-Unis maintenant. Les électeurs du New Hampshire votent aujourd'hui dans la première primaire de la campagne électorale qui conduira au choix du prochain chef de l'exécutif américain. Les favoris dans les deux camps en présence sont côté républicain le milliardaire Donald Trump et chez les démocrates le sénateur du Vermont Bernie Sanders qui mène devant l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Les autorités attendent une participation record en dépit des fortes chutes de neige. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Thomas Kamilindi, a assisté à des meetings politiques hier à Manchester, dans le New Hampshire. Son analyse de la campagne électorale en cours.
L'État du New Hampshire est un État actuellement très important sur l'échiquier politique américain. D'abord, il faut dire que c'est un État tout à fait homogène. La plupart des habitants du New Hampshire, ce sont des habitants blancs. Donc, les candidats veulent attirer cet électorat, mais un électorat indécis parce que 44% des habitants du New Hampshire sont des indépendants. Je veux dire, ils ne sont ni démocrates ni républicains. C'est une portion donc de population qui pèse énormément dans les élections primaires. Ensuite, ces élections primaires du New Hampshire sont déterminantes parce que la plupart des candidats, du moins chez les républicains, risquent de quitter ces primaires s'ils sont battus aujourd'hui, tandis que chez les démocrates, c'est encore une bataille assez serrée. Il n'y a que deux candidats. Bernie Sanders vient en tête des sondages et Hillary Clinton arrive en deuxième position, mais Hillary Clinton avait gagné d'une courte tête aux premières primaires dans l'Iowa il y a une semaine. Et donc les jeux ne sont pas encore joués. On va attendre donc pour voir les résultats dans la soirée.
Thomas Kamilindi, notre envoyé spécial aux primaires du New Hampshire, ici aux États-Unis. Crise en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a lancé un nouvel appel à la Russie pour un cessez-le-feu dans le conflit syrien, ce qui pourrait permettre éventuellement la tenue, plusieurs fois reportée, d'un dialogue politique entre Damas et l'opposition syrienne. Michel Joseph nous en dit plus.
S'exprimant à deux jours de la nouvelle réunion, jeudi à Munich, du groupe international de soutien à la Syrie, le chef de la diplomatie américaine a clairement exprimé la position des États-Unis. Nous avons appelé la Russie et nous l'appellerons encore à se joindre aux efforts destinés à apporter un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire complet, a martelé John Kerry devant la presse en recevant au département d'État son homologue égyptien Sameh Shoukry. Pour John Kerry, les opérations militaires de la Syrie à Alep et dans la région nuisent aux efforts visant à organiser des pourparlers sur la Syrie. Nous ne sommes pas aveugles sur ce qui se déroule et nous sommes tout à fait conscients que ce moment est crucial, a ajouté M. Kerry. La feuille de route diplomatique adoptée en novembre 2015 par le groupe international de soutien à la Syrie et par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclame notamment l'instauration d'un cessez-le-feu et un accès humanitaire aux villes syriennes assiégées.
On revient à l'actualité aux États-Unis. Le président Barack Obama a promulgué hier une loi adoptée la semaine dernière par le Congrès qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique pour fournir de l'électricité à 50 millions d'Africains. La législation ne débloque pas de fonds nouveaux, mais exige de l'administration américaine qu'elle coordonne une stratégie pour encourager le secteur privé et les organisations internationales à investir dans l'électrification de l'Afrique subsaharienne, où 70% de la population, soit 600 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. La loi vise notamment à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de 7 milliards de dollars et dont Barack Obama a fait la promotion lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. Et pour terminer, le président américain a présenté aujourd'hui le budget 2017, le dernier de son mandat, un budget qui fera face à une forte opposition de la part du Congrès, dont les deux chambres sont dominées par les républicains. Mais le président tient quand même à afficher ses priorités dans ce budget. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.